l'habitude de porter des cravates et du veston. J'ai décidé de m'adapter quand même à la tenue de l'Assemblée. Et voilà, ce matin, le frère Claude est tout beau avec sa cravate et son veston. Alors, voilà comment se passent les choses dans ma vie. Je remercie ceux qui ont organisé cette retraite de m'avoir invité. C'était gentil. Mais je dois vous dire que j'ai un peu. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai un peu peur. Voilà, c'est le meilleur mot, je crois. Parce que je ne prêche pas souvent en français. Enfin, j'ai prêché deux fois la semaine, les deux semaines passées à Genève, et c'était les premières fois depuis 4 ans, depuis que nous étions à Genève, il y a 4 ans. Et aussi parce que le sujet n'est pas facile. Je ne sais pas qui a choisi ce sujet. Le jugement, la mort, l'enfer. Oui. Puis Doyle, quand il m'a écrit, a dit, je suis sûr que tu trouveras un moyen positif de présenter ce sujet. Alors, je n'étais pas aussi sûr que lui, et je ne le suis pas encore. Ce ne sont pas des sujets rigoureux, ce sont des sujets sérieux. Pourtant, j'espère qu'il y a un moyen plus ou moins positif de les regarder, du moins pour nous les chrétiens. Mais ce sont des sujets difficiles, mais pas rigolos. Le sujet même se prête à diverses interprétations. Je ne connais pas de terme biblique où il y a plus de variété d'explications et d'interprétations. Et quelques-unes de ces interprétations sont vraiment bizarres. Elles vont très loin dans la spéculation, essayant de remplir le vide qui existe dans les Écritures. Et je trouve tout cela un peu frustrant parce que je n'ai pas le temps ce matin de défaire toutes ces interprétations. Je n'ai pas le temps, peut-être je n'ai même pas la connaissance qu'il faut pour réfuter tout ce qu'on a bâti sur ce verset biblique qui traite des dernières choses. Il y a tout un système de connaissances, on appelle ça l'eschatologie. On a même un mot difficile pour décrire les choses difficiles. Mais l'eschatologie, c'est seulement une étude des dernières choses, les choses qui vont arriver à la fin de ce monde. Et j'avoue franchement au début que moi, il y a bien des passages qui sont difficiles pour moi encore. Après de longues années d'études et de réflexions, il y a bien des choses que je ne peux pas expliquer. Il y a des problèmes dans ces versets qui m'échappent quelquefois. Il y a un langage difficile. Les versets, les passages qui traitent des dernières choses sont souvent pleins de langage apocalyptique. Ça veut dire, c'est un langage de symboles. C'est un langage plein de monstres et de bêtes de toutes façons, des animaux, ni animaux, ni oiseaux, ni poissons, avec des cornes multiples, etc., etc., etc. Ce plein d'étoiles qui tombent ou changent de position, il y a un mouvement astral. C'est un langage qui est plein de chiffres, de nombres symboliques. Ou 7 ne veut pas dire 7, ou 1 000 ans ne veut pas dire peut-être 1 000 ans. Ce sont des chiffres symboliques. Et avec tout cela, il faut aller bien lentement dans l'interprétation. représentation de ces choses symboliques. Et voilà justement le problème, parce que une personne telle peut dire, voilà ce que cela veut dire. Un autre peut dire, non, ce n'est pas ça, voilà ce que ça veut dire. Et il est difficile de réfuter ça, parce que c'est un langage symbolique. Et pour moi, donner une interprétation de passage symbolique est une chose qui exige beaucoup, beaucoup d'études et qui exige un esprit très ouvert et qui en réalité exige qu'on ne soit pas trop dogmatique dans son interprétation. Surtout de baser des croyances plus ou moins systématiques ou dogmatiques dessus. Alors il y a un danger dans les interprétations trop littérales de ce passage, comme vous le savez aussi bien que moi. Les personnes qui prophétisent la fin du monde uniquement parce qu'il y a un nouveau millénaire, par exemple. Je suppose que c'est en partie à cause de cela qu'on a choisi ce sujet pour cette année-ci, parce qu'avec le changement de millénaire, il y a tant de personnes, tant de choses qui ont été dites au sujet du retour. Il y en avait qui attendaient le retour du Seigneur, même à la fin de l'année passée. Comment est-ce qu'on dit en français le titre du livre par Hal Lindsey, The Late Great Planet Earth?
L'agonie de notre vieille planète.
Merci. je cherchais, mais je ne l'ai pas trouvé. Dans ce livre-là, il y a beaucoup de ces interprétations, de ces prophéties qui se basent sur, justement, des interprétations un peu forcées de ce passage. Moi, pour vous dire au début ce que je pense de tout cela, je pense qu'on ne trouve pas dans la Bible de prédiction d'une attaque sur Israël par des forces égyptiennes, c'est-à-dire de nos jours. On ne parle pas d'une invasion du Moyen-Orient par les Russes. Je ne crois pas qu'on trouve la bombe atomique dans le feu et le soufre jeté sur les ennemis du peuple de Dieu, écrit dans Ézéchiel chapitre 38. Ce sont des choses qu'on peut prononcer, personne ne peut le prouver faux, avant que le temps ne le prouve, le passage du temps prouve que ces choses sont souvent en erreur. Mais avec un langage qui est plus d'images et de métaphores, où les métaphores sont quelquefois contradictoires même l'un à l'autre, pour nous il est un peu difficile d'atteindre une idée claire et nette de ce que sera la fin du monde et le jugement. Mais il faut l'étudier. On est curieux, on veut savoir. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de passages dans la Bible qui en parlent justement. C'est un sujet important. Et c'est un sujet que nous avons souvent négligé. Moi, je ne peux pas me rappeler quand j'ai entendu un sermon, vraiment un sermon sur l'enfer, le jugement. Ça fait très longtemps. Pourtant, il y a des passages qui en parle. Est-ce que les hommes méchants vont être jetés dans un étang de feu ou dans une abîme de ténèbres? C'est un peu contradictoire ça, n'est-ce pas? À la surface du monde, un étang de feu et une abîme de ténèbres. Je ne vais pas essayer de déchiffrer tout cela. Parce que c'est un langage métaphorique, c'est un langage allégorique ou un langage symbolique où tous les deux peuvent être vrais. Ils s'adressent seulement à un perspectif différent ou à un aspect différent de l'événement. Mais la chose qui est commune aux deux passages, c'est que ce sort sera terrible. Il y aura de la souffrance. Et c'est une souffrance éternelle que nous voudrions éviter. Que nous voudrions éviter. Mais donner des interprétations exactes sur chaque symbole, moi, je ne suis pas capable de le faire. Et si vous êtes venu ce matin avec l'espoir que je réponde à toutes ces questions qui peuvent se présenter, alors vous allez être un peu déçu, parce que je ne peux pas le faire. Il y a deux thèmes annoncés dans le sujet, ou bien peut-être il y en a trois. Dans le titre donné, le retour du Seigneur, deux points, la mort et le jugement. Moi, je vois plutôt des virgules. Le retour du Seigneur, la mort et le jugement. Peut-être dans cet ordre-là. Voilà de quoi parler pendant 3 ou 4 jours, ou pendant tout un semestre à l'université. Alors si vous avez le temps, peut-être cet après-midi, au lieu de faire une promenade, on pourrait se rassembler pour parler de tout cela en plus de détails. Moi, on va essayer quand même de faire de notre mieux. Je vais commencer à parler quand on a le temps de s'arrêter. Tu me diras, oui. Et puis on continuera demain. D'accord ? Bon. On finit à 11h30. J'ai quand même 30 bonnes minutes ici. Il y a un verset qui relie les deux mots du sujet, la mort et le jugement. Hébreux chapitre 9. Le verset 27. C'est un passage que vous connaissez certainement. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ, etc., etc. Nous allons voir le verset 28 un peu plus tard. Voilà un passage qui relie bien les deux thèmes ensemble. Il est réservé à tous les hommes de mourir. Après quoi viendra le jugement. L'auteur ne dit pas si le jugement viendra tout de suite après la mort, ou ça, si ça viendra longtemps après la mort. La seule chose qu'il dit, c'est qu'il y a la mort réservée à tout homme. Et qu'après, il y aura un jugement. Voilà deux faits que l'Église trouve accepter sans discussion presque. Et l'apôtre Paul ici, non. Est-ce que c'est l'apôtre Paul qui écrit l'épître aux Hébreux? Je ne sais pas, peut-être. Enfin, l'auteur de l'épître aux Hébreux utilise ces deux choses vraies, ces deux choses acceptées par les chrétiens en général pour insister sur quelque chose d'autre. Il n'argumente pas pour l'existence de la mort et pour l'existence d'un jugement. Tout le monde y croyait. Tout le monde savait qu'il y a la mort. Tout le monde acceptait le fait qu'il y aura un jugement. Bon. Alors, on va diviser un peu l'étude en trois parties. Le retour du Seigneur. On parle un peu de la mort et puis du jugement. Pour parler du retour du Seigneur, j'ai écrit déjà au tableau noir un schéma d'une liste d'événements avec quelques versets. Je ne vais pas lire ce verset en entier. Vous pouvez tourner pour lire ce verset pendant que j'en parle, ou bien vous pouvez le noter pour les étudier plus tard. Mais c'est une façon de donner un ordre possible de ces événements qui vont accompagner le retour du Seigneur. je parle des choses qui doivent précéder, qui doivent arriver avant le retour du Seigneur. Le retour du Seigneur, c'était accepté par tout le monde. Depuis le jour de la Pentecôte où l'apôtre Pierre a parlé devant cette assemblée et l'auteur des Actes des Apôtres nous a révélé ce qui s'était passé quand Jésus a été reçu, a été enlevé de la terre. Au début des Actes des Apôtres, chapitre 1, en parlant du fait que Jésus avait été élevé, qu'il est monté au ciel, au verset 11, Actes chapitre 1, verset 11, sous Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Depuis ce moment-là, les chrétiens n'ont pas hésité à croire au retour du Seigneur. Même ils l'attendaient avec espérance, avec empressement. Ils voulaient que le Seigneur revienne, qu'il vienne, qu'il vienne. C'était une prière de l'Église primitive. Mais quel sera l'ordre des choses? Là encore, je n'ai pas eu de révélation sur ce sujet. Je n'ai pas eu de vision. Mais je sais tout seulement ce que vous savez déjà peut-être. Et à la fin, à la longue, est-ce tellement important l'ordre des choses? Si je place le jugement au rang quatrième rang au lieu de le placer au cinquième ou sixième, quelle importance est-ce que cela tient pour nous? La certitude, c'est que toutes ces choses vont arriver. Et pour nos esprits curieux et logiques, nous voulons quand même le voir un certain ordre qui est logique, qui peut se faire selon nos connaissances. Alors, retraçons rapidement le retour du Seigneur. Avant le retour, plusieurs choses doivent se faire, parce que les chrétiens du premier siècle, ils voulaient que ça arrive tout de suite. Et ont commencé à se disputer un peu. Pourquoi est-ce qu'ils ne viennent pas? Voilà des années qui passent et il n'est pas encore revenu. Alors, les écrivains bibliques expliquent que oui, ils vont venir. Oui, il y aura un retour du Seigneur, mais certaines choses doivent arriver d'abord. Certaines de ces choses, il y aura une apostasie. Deux Thessaloniciens, chapitre 2 et le verset 3. Il y aura un homme de péché qui se mettra au-dessus de Dieu et de tout ce qui est divin. L'évangile, selon Matthieu 24, selon Jésus même, qui parlait de la fin du monde et de la destruction de Jérusalem en même temps, ces passages qui ont une double interprétation, il dit qu'avant la fin, l'évangile sera prêché dans tout le monde. Et si nous prenons l'Apocalypse chapitre 20, dans cette liste de versets, il est indiqué qu'il dit que l'influence de Satan sera limitée pendant un temps, puis renouvelée avant la fin du monde. Je ne vais pas me lancer dans une discussion du millénium, de 2000 ans, de toutes ces choses qui sont très intéressantes, mais pour moi, ce sont des choses un peu inutiles à la longue pour comprendre le fait important pour nous. Mais une fois que le temps arrive, et il y a bien des passages qui disent que même Jésus ne sait pas quand ce temps sera. Quel jour, quelle date, personne ne le sait, sauf Dieu. que cela me semble toujours, ça m'a toujours semblé un peu bizarre. Car il y a plusieurs passages qui disent que personne ne sait qu'il y a plein de gens qui disent il reviendra à telle ou telle date. Mais qu'il viendra quand vous voleur, quand vous ne l'attendez pas, quand vous faites votre vie comme vous le faites tous les jours, vous ne vous attendez pas à son retour, voilà, il vient. Alors moi, quand on dit qu'il va revenir une telle ou telle date, pour moi, c'est probablement une indication qu'il ne viendra pas ce jour-là, puisqu'on ne viendra pas quand on l'attend. Mais quand il viendra, il viendra comme un voleur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, commençons à partir du verset 13, ça continue dans le chapitre 5. Il viendra un signal. Il y aura un signal donné. Quel signal? Je ne sais pas. Un signal, ça me suffit. Faut pas discuter, faut pas aliter. Un signal sera donné à la voix d'un archange. Quel archange? Ah, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aura une voix douce ou une voix basse? Oh, je ne sais pas. Ce sera à la voix d'un archange et au son de la trompette. Ah, une trompette réelle, une trompette matérielle. Où ça s'en va? Je ne sais rien. Mais c'est le langage utilisé pour décrire quelque chose d'extraordinaire. Dans la communauté juive, quand on voulait annoncer quelque chose de spécial, il y avait souvent des trompettes pour annoncer ça. Alors, moi j'attends le retour du Seigneur. N'importe comment ce retour est annoncé ou prédit, la seule chose qui est importante, c'est qu'il viendra. Il reviendra. Puis quand il reviendra, il y aura la résurrection de ceux qui sont en Christ. De façon à ce que les personnes qui vivent ne passeront pas par la mort, mais ces personnes qui vivent toujours sur terre, lors de son retour, seront changées. Nous sommes maintenant dans 1 Corinthiens chapitre 15 et le verset 22 et le verset suivant. Il aurait été si simple si un des auteurs avait dit « Voilà, je vais écrire tout ce qu'il nous faut savoir sur le retour du Seigneur et voici l'ordre dans lequel tout cela va se passer. » Mais on n'a pas ce texte. Donc il faut prendre un peu dans l'Épître aux Corinthiens, un peu dans la première épître aux Thessaloniciens, un peu par-ci, par-là, pour reconstruire un peu l'idée possible de ce que ça va être. Alors, en Corinthiens, chapitre 15 et le verset 22, il y aura d'abord la résurrection de ceux qui sont en Christ. Donc, les personnes qui sont vivantes n'auront aucun avantage. Calmez-vous, dit-il. Les personnes qui sont mortes en Christ, ils vont être là aussi. Quand le Seigneur reviendra, eux, ils ressusciteront. Et nous serons changés, si nous sommes dans ce groupe de vivants. Et ensemble, nous serons élevés de la terre à la rencontre de Jésus dans les airs. Surveillez-le. Langage symbolique ou langage littéral? Peut-être un peu des deux. Moi, je m'incline un peu vers le langage symbolique. Mais il y a quand même un passage qui me remet en place, peut-être. C'est ce passage que j'ai lu tout à l'heure dans Actes chapitre 1. Qui ne semble pas être un passage symbolique. Ça semble être une description historique de ce qui s'est passé. Jésus, pendant qu'il était avec ses disciples, après sa résurrection, a été enlevé visiblement d'entre eux. Sur le lieu, matérialiste. Nous qui doutons de toutes ces choses un peu... quel est le mot qu'il faut utiliser, un peu... exotique, je ne sais pas. Nous avons tendance à nous moquer, ou bien je connais bien des gens qui se moquent de cette idée de terre, être humain, ici-bas, ciel, là-bas. Si Jésus est allé au ciel de Jérusalem, quel est son rapport à ceux qui sont en Chine? Il y a tant de questions à se poser sur ces choses. Mais ce passage semble parler d'un fait historique et réel qu'ils ont regardé dans les yeux, que le Christ a été enlevé pour aller au ciel. Et il est ajouté, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu monter au ciel. Alors, est-ce que je suis un peu naïf en attendant à ce que le Seigneur revienne visiblement du ciel? Je crois pas. S'il vient d'une autre manière, ce n'est pas à moi de disputer la chose. C'est pas à moi de dire, non, Seigneur, tu ne peux pas nous dire comme ça parce que tu as dit que tu allais venir comme ça. Non, il va revenir. Et je crois que c'est une chose bien possible qu'il revienne visiblement du ciel. Je ne sais pas. Je n'ai aucune explication de tout cela. Mais il me semble que ce passage n'est pas apocalyptique, que ce n'est pas très symbolique, que ça se pose, que ça se présente comme étant une description réaliste de ce qui s'est passé et de ce qui se passera au futur. Les vivants seront instantanément changés parce que ce qui est corruptible, ce qui est mortel, ce qui est charnel et matériel ne peut pas hériter de ce ciel, de ce monde spirituel. Alors nous serons tous changés. Encore, en 1 Corinthiens 15, verset 22, disons plutôt verset 51, et plusieurs autres versets que je citerai rapidement. Dieu va donner un corps aux vivants, sans doute aux ressuscités aussi. Il va nous donner un corps glorieux, verset 43. Un corps spirituel, verset 44. Un corps immuable, 38, verset 38. Un corps qui porte l'image du céleste, verset 49. Ça n'aura aucun rapport avec le terrestre auquel nous sommes habitués. Alors je ne sais pas comment sera ce corps, mais il va être formidable. Et je veux en avoir un, comme ça. Il va nous donner un corps qui revête l'incorruptibilité et l'immortalité, verset 53. Voilà des changements mystérieux, mais des changements vraiment formidables. Que ce qui est corruptible ici-bas, ce qui se pourrit, ce qui se vieillit, ce qui marche péniblement quelquefois, là, ce corps ne sera plus comme ça. Ce corps sera un corps glorieux qui ne connaît aucune corruptibilité, aucune immortalité. Et je voudrais en avoir un comme ça. Alors, le mort ressuscité, le vivant changé, puis Dieu nous prendra ensemble et Dieu nous ramènera. Maintenant, en 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 14, nous sautons un peu de passage en passage. Dieu nous ramènera par Jésus et avec Jésus ceux qui sont morts et ceux qui sont vivants. Donc ce passage est d'accord avec l'autre que nous avons lu. Et nous, verset 17, 1 Thessaloniciens chapitre 4 et le verset 17, nous serons élevés sur des nuées. Même langage qui est utilisé pour décrire ce qui s'est passé avec Jésus. Il a été enlevé de la terre pour aller dans les nuées. Et nous, nous serons élevés de la même façon. Je ne comprends pas tout ça. Mais il a dit, je le crois, nous serons élevés sur les nuées. Un petit mot en passant, ce n'est pas un enlèvement comme on en parle dans quelques églises évangéliques, où seulement certaines personnes seront élevées pendant que d'autres restent sur la terre pour mille ans. Il n'y a rien de cela dans ce passage. Tous les morts qui seront ressuscités pour la vie, tous les vivants seront changés et nous tous nous serons élevés. Oui, il y aura un enlèvement, ça c'est biblique, mais un enlèvement partiel qui laisse beaucoup de personnes sur la terre, ça ne se trouve pas dans ces passages. Puis, le jugement. J'ai mis le jugement ici vers le bas. Je ne sais pas où le mettre, franchement. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31, tout le monde, toutes les nations seront rassemblées devant le trône et il y aura un jugement. En Apocalypse chapitre 20, il y aura un jugement terrible. Et les bons, les sauvés, ceux qui sont lavés dans le sang du Christ, eux, ils iront au ciel, au paradis, dans la présence du Seigneur. Aucune façon de décrire cette existence, cet état. Ceux qui ne sont pas en Christ, les méchants, eux, ils vont dans ce que nous appelons l'enfer. La punition éternelle, dont nous parlerons en plus de détails demain, un jugement. Ensuite viendra la fin de ce monde. Quand nous parlons d'une fin, remarquons que c'est la fin de ce monde, car ce n'est que le commencement de l'autre. Donc ce que nous appelons la fin est en réalité pour le chrétien un commencement. Enfin, ensuite viendra la fin. Après que Jésus aura vaincu le dernier ennemi qui est la mort. Encore en 1 Corinthiens, chapitre 15 et le verset 25 et 26. Puis, Jésus, qui pendant son règne sur le royaume qui est maintenant, qui est actuel, dans ce passage, il remettra le royaume au règne de Dieu. C'est lui qui est maintenant le chef, c'est lui qui règne. Mais il remettra le royaume à Dieu et lui aussi, il s'y soumettra. Il se soumettra à Dieu de nouveau et à son règne. Voilà. Et quand cela arrive, quand tout cela sera terminé, il y aura des choses terribles qui sont décrites dans les Écritures. En 2 Pierre chapitre 3, les cieux passeront des grands fracas, des explosions. Les éléments se dissoudront, la terre sera consumée, et il y aura de nouveaux cieux et une nouvelle terre. De nouveaux cieux et une nouvelle terre. Je ne peux même pas expliquer ça. Mais il y aura une existence. existence spirituelle après cette existence-ci. Et ça, c'est le message principal. Et le message principal n'est pas pour que nous ayons cette connaissance mentale, mais c'est présenté dans la Bible, et je vous le présente ce matin, comme un sujet très sérieux, parce qu'il faut vivre comme si ces choses étaient vraies, car elles le sont. Il faut vivre comme il y aura une fin. Il faut vivre comme il y aura un jugement. Il faut vivre comme si ces choses étaient réelles, car elles le sont.
Changer l'ordre ici, le jugement viendra là, le jugement viendra ici.
Je ne sais pas où ça va se placer. Mais j'ai cette confiance que nous y passerons tous. Que nous y passerons tous. Et le message de l'apôtre Paul à ces Athéniens qui a été qui est décrit dans le chapitre 17 des Actes des Apôtres. Paul a dit à ses Athéniens que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Alors ce passage répond à beaucoup de questions, il me semble. Et on en parlera un peu plus demain. La seconde partie de ce sujet, je sais que le temps s'approche. La seconde partie de ce titre, c'est la mort. Puis le jugement. Je ne sais pas ce qui a été envisagé. L'état de mort au retour de Jésus, nous avons déjà adressé ça un peu. La seconde mort, ce qui sera l'enfer en réalité. Ou bien seulement la place de la mort dans l'ordre des choses. Moi, je ne sais pas ce que je pourrais vous enseigner sur la mort, car vous avez fait l'expérience de la mort. Vous savez ce que c'est. Et quand je regarde cette assemblée ce matin, je ne peux pas m'empêcher de penser à quelque chose de vide. À cause de la mort. Au fait, quand je pense aux assemblées francophones en Europe, mes souvenirs d'il y a 35 ans, la collecte, il y a date et lieu. Vous, les autres, je ne vois aucune personne qui était ici il y a 35 ans, sauf peut-être la famille Meblet, dont j'ai connu les parents. Il y a longtemps. Bien sûr, il y en a qui ont quitté les assemblées, mais il y en a bien d'autres qui ont passé par cette chose que nous appelons la mort. Les époux, les épouses, les petits-enfants, les aînés. Ou dans notre cas, une fille de 21 ans avec son mari dans un accident d'automobile. La mort, c'est une réalité. Je pense que c'était un de vos auteurs, je pense que c'était Rochefoucauld qui a dit « Il y a deux choses que l'homme ne peut pas regarder fixement, le soleil et la mort. » Il est difficile de regarder le soleil, on ne peut pas regarder le soleil. Un coup d'œil, puis c'est fini. Et c'est presque la même chose avec la mort. Je pense qu'il avait raison. Il avait raison de dire ça. Car nous faisons toutes sortes de choses pour éviter la réalité de la mort et de ses conséquences. Car c'est une chose pénible. la mort a été ajoutée à une expérience humaine comme punition. C'est quelque chose de pénible. Nous pouvons la décrire comme nous voulons. Nous pouvons essayer de l'embellir, de la rendre plus jolie, avec des fleurs, ou de parler de la victoire. Et ça c'est vrai, ce sont des choses qui allègent la peine de la mort. Mais avec tout cela, avec toute l'espérance d'un ciel, d'une vie éternelle, la mort c'est encore pénible. Mais nous devons tous y passer, parce que ça fait partie de l'expérience humaine. C'est une chose commune à toute l'humanité. Et non pas seulement à l'humanité, c'est une chose qui est commune à tout ce qui vit. L'arbre le plus haut, il va mourir. La fleur la plus belle, elle va mourir. Tout ce qui vit meurt. C'est l'ordre des choses dans cette vie, n'est-ce pas? La mort est inévitable. Nous devons y tous passer. Qu'est-ce que nous pouvons faire donc devant cette certitude? Eh bien, nous pouvons un peu changer notre façon de la regarder. Nous pouvons essayer de donner un peu de sens à ce qui autrement serait absurde. Nous donner un peu d'espérance, ou beaucoup d'espérance, à revoir cette personne. Et aussi, nous essayons de tirer du bien de cette expérience dans cette vie-ci. Moi, comme vous, je crois que ce que l'apôtre Paul a dit au Romains, quand il a dit que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon son dessein. Mais je ne crois pas que l'apôtre Paul dit que toutes choses sont bonnes. Mais Dieu peut prendre des choses mauvaises et terribles pour en tirer des choses bonnes. Il peut changer en bien les choses qui autrement sont terribles. Je vais terminer avec ceci. Il y a quelques semaines, j'écoutais une leçon biblique où on parlait de Joseph dans l'Ancien Testament, l'histoire de Joseph, qui avait été vendu, par ses frères. Ses frères qui voulaient se débarrasser de lui. Mais vous savez l'histoire. Les années sont passées, Joseph a été vendu en Égypte, il est devenu un homme important dans la maison du pharaon. Et finalement les frères sont venus, ils ont profité du fait que Joseph était là. Et vers la fin de l'histoire, lorsqu'ils discutaient cela, Joseph a dit que lui, vous aviez médité un mal, vous vouliez du mal à moi. Mais Dieu l'a changé en bien. Dieu l'a changé en bien. Combien d'années est-ce que Joseph a dû attendre pour voir ce bien? De longues années, des années nombreuses avant de voir le bien qui ont été le résultat de cela. Et donc, je ne sais pas. Nous, après la mort de notre fille et de notre gendre, ça fait il y a 15 ans que ça s'est passé. J'attends encore le bien. Je peux dire que peut-être ceci, c'est ce que Dieu a changé. C'est ça qu'il a fait pour changer les choses. Ou peut-être que c'est ça. Mais alors, je ne sais pas. Mais il ne faut pas se désespérer. Dieu a promis que toute chose concourt au bien. Ce n'est pas que toute chose est bonne. Mais Dieu peut prendre n'importe quel événement, n'importe quelle situation, pour en tirer du bien pour nous ou bien pour les autres. La mort, c'est un passage à l'autre vie. C'est un sommeil dont on se réveille. C'est un espoir de vivre encore et de vivre éternellement. Demain, nous parlerons un peu plus du jugement, de l'enfer
et du ciel.
Il y aura un message positif après tout.
Merci, je pense qu'avec un...